nous sommes au vendredi 3 mai 2024. Merci de nous choisir pour l'émission Club de la Presse que nous animons ou que nous avons le plaisir d'animer depuis le siège alors de Ouaka. Nous sommes bien sûr à Lomé et c'est le 21e numéro de l'émission du littoral, de la radio du littoral dans le cadre alors du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouaka Resip, qui vise à lutter contre l'érosion et les inondations côtières. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Koko Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akuta est à la mise en ligne. La technique est assurée depuis la base de Canal FM, bien sûr, à Lomé par Thomas Etet Datevi. Je suis au micro Pascal Lousseau. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takbami, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabao. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Alors, si je vous parle alors du tamiseur, d'un odomètre ou de l'oxymètre ou encore du turbidimètre, vous ne comprenez peut-être pas grand-chose puisque c'est des thèmes techniques réservés aux initiés. Et donc, la radio du littoral s'anime aujourd'hui autour du thème du renforcement des capacités institutionnelles, des structures en équipement, de laboratoires, car des universités de Lomé et de Kara. Pour en parler, nous serons avec des professeurs des universités de Lomé et de Kara et aussi des étudiants bénéficiaires alors de ces équipements. Je ne serai pas seul autour de cette table pour animer cette émission. L'émission sera co-animée bien sûr avec des confrères journalistes dont les médias sont des partenaires sur ce projet Ouaka. Nous avons premièrement Abel Aglamé. Abel, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous.
Abel, vous êtes journaliste à Radio La Voix de Vaud. Là, nous sommes dans la préfecture de Vaud, bien sûr.
C'est bien ça.
Voilà. À côté, alors de moi, il y a Juliette Candel. Juliette, bonjour.
Pascal, bonjour. Auditeur, bonjour.
Vous êtes journaliste à Radio Lomé, la mère des radios, comme on aime l'appeler.
Exactement, Pascal.
Voilà. Également, autour de cette table, il y a Jean-Marie Gonsalves. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Un journaliste, Radio Mopopo à Fagnan, c'est bien ça?
C'est bien ça dans le bas
mon nom. Je pense que le parcours à Fagnan, Lomé a été. S'est bien passé.
Ça s'est bien passé, on rend grâce.
Dieu merci. Nous n'oublions pas les autres médias partenaires, notamment sur ce projet bien sûr, Ouaka, et Radio Nana FM, Taxi FM, Liberté, le journal Union pour la Patrie, Togo Presse et Togo Fest, bien sûr. Alors, nous sommes dans cette salle magnifique alors de Ouaka, et là, il est quand même très important que le coordonnateur de ce projet, du projet Ouaka, nous souhaite bien sûr la bienvenue pour cette émission. Alors, monsieur le coordonnateur, bonjour.
Bonjour, Abel.
C'est bien Pascal.
Ah, c'est bien.
Tout à fait. Alors, docteur Adou Rahim Alimi, vous êtes le coordonnateur alors du projet Ouaka, ici au Togo, bien sûr, donc coordonnateur général. Alors, c'est encore, bien sûr, important, nous allons connaître un tout petit peu ce que c'est que le projet Ouaka.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Pascal. Toutes mes excuses pour avoir écorché votre nom. Bon, je voulais avant tout souhaiter d'abord la bienvenue parce que nous avons le bonheur aujourd'hui d'accueillir la radio du littoral chez nous, à notre siège. C'est assez particulier et je crois que vous pouvez pas savoir tout le bonheur que vous me donnez d'être avec nous ce matin. Je voulais saluer tout le monde, les radios partenaires et l'ensemble du corps professoral qui est avec nous. Que ce soit ceux d'ici, ceux de Kara qui nous suivent aussi en ligne. Et salut aussi tous les étudiants qui sont ici présents. Merci à vous pour le déplacement. Et je voulais maintenant, pour revenir à votre question, dire que le projet Ouaka, comme on le dit toujours, c'est la réponse durable que le gouvernement a voulu apporter aux questions majeures d'érosion côtière, d'inondation, de pollution, de dégradation de sol. Et de renforcement des moyens de subsistance des populations. Et sur ces cinq domaines, le projet intervient pour apporter, comme je le disais, des réponses durables pour faire en sorte que toutes ces aléas, pour ce qui concerne les phénomènes environnementaux, l'on puisse créer des conditions qui permettent aux populations de pouvoir s'adapter tout en essayant de lutter contre les effets un peu néfastes que ces aléas-là créent aux populations pour faciliter leur adaptation. Donc le projet en fait vise en fait à renforcer la résilience des populations et par rapport à ça, nous avons un fort volet de renforcement de capacités. Et si nous sommes là ce matin, c'est justement par rapport à ça, parce que dans le cadre du renforcement de capacités, il est question pour le projet d'apprêter un certain nombre d'institutions, disons d'apprêter même le pays à pouvoir vraiment s'occuper, s'attaquer des problèmes qui concernent le littoral. Et par rapport à ça, vous savez que quand on est un peu dans cette approche-là, la recherche constitue un pilier. Et c'est pour ça que le projet a souhaité aussi renforcer tout le domaine de la recherche marine par rapport aux questions majeures d'inondation et aux aléas que nous avons sur le littoral. Et sur cette question de renforcement de la recherche, vous savez que pour renforcer la recherche, il faut agir sur deux choses majeures. Les compétences, mettre en place les compétences et aussi les équipements qu'il faut. Parce que la recherche, il faut des gens d'un certain niveau pour le conduire. Et pour ce qui concerne aussi des équipements, il faut naturellement des équipements de pointe. Donc, l'appui que le projet apporte par rapport à ce volet-là, au niveau des deux universités, nous avons la faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara et le laboratoire de recherche sur les héritages géomorphologiques et hydrosystèmes de l'Université de Lomé. Donc, c'est justement la raison pour laquelle le projet collabore avec ces deux universités pour faire en sorte que nous créions les conditions d'une recherche, d'une recherche viable et efficace en ce qui concerne la recherche marine. Et notre présence ici ce matin, ça va être de discuter de cet appui-là. Et je crois qu'on aura le temps d'aller en profondeur par rapport à ce que le projet a pu faire pour l'ensemble des deux universités.
Effectivement, monsieur le coordonnateur, déjà dans le processus pour accompagner surtout ces deux universités en équipement de recherche, bien sûr, comment ça a été fait, la méthodologie?
Bon, comme je le disais à l'entame, c'est-à-dire quand on parle de recherche, il y a deux aspects qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un bassin de compétences, des gens capables de mener cette recherche et aussi voir si les outils ou tous les instruments qui sont nécessaires pour conduire cette recherche-là sont disponibles. Donc, au niveau des deux universités, je crois que après les échanges que nous avions, les besoins d'appui nécessaires pour impulser cette recherche-là ont été mis à notre disposition et je crois que c'est par rapport à ça que l'appui du projet a été orienté pour faire en sorte qu'au niveau de chacune des universités concernées, qu'on puisse vraiment avoir ou créer les conditions de conduire les recherches. Ce qu'il faut comprendre en réalité, on n'agit pas forcément pour l'immédiat, mais c'est qu'il faut créer les conditions parce que toute la recherche ne va pas se faire dans les délais d'un projet. Mais quand on met en place les conditions qu'il faut, c'est que nous enclenchons un processus qui va se nourrir de lui-même et permettre, c'est-à-dire que d'améliorer les connaissances au fur et à mesure. Parce que la recherche, en réalité, c'est quoi? C'est de nous apporter des connaissances de plus, c'est d'améliorer les connaissances sur un certain nombre de choses. Et je crois que nous, en fait, c'est, comme on dit, on sème la semence en réalité. Et je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de faire.
D'accord. Je pense que pour ce qui concerne le fait que, est-ce que c'est les besoins, ces équipements, est-ce que c'est les besoins alors de ces universités aujourd'hui, je pense qu'il y a des professeurs, les bénéficiaires d'ailleurs, de ces équipements qui vont mieux nous édifier là-dessus. Et donc, pour en parler, bien sûr, il y a professeur Adoussi qui est là, professeur Adoussi, et c'est notre confrère Abel Aglamé qui va s'entretenir avec professeur Adoussi. Abel?
Merci Pascal. Nous recevons sur ce plateau, dans le cadre de cette 21e émission de la Radio du Littoral, professeur Pessiezoum Dieudonné Adoussi. Il est docteur en géographie physique. Ses principaux axes de recherche portent sur les changements globaux, les géorisques, la gestion des zones côtières et la télédétection. Il est enseignant-chercheur au département de géographie à l'Université de Lomé. Il est géomorphologue, directeur du laboratoire de télédétection appliquée et de géoinformatique. Dans le cas précis, Pascal, il est le responsable de l'équipe de recherche sur les héritages géomorphologiques et hydrosystèmes. Vous parlez tantôt des équipements. Professeur, dans le cas précis, nous voudrions savoir les équipements que vous avez reçus. Est-ce que vous pouvez en énumérer quelques-uns?
Ok, merci Abel. Je voudrais avant tout vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez de parler de notre équipe de recherche ce matin au siège du projet WACA. Je voudrais avant tout propos remercier le ministère de l'Environnement et à travers ce ministère, le projet WACA Recip qui a appuyé l'université dans l'acquisition de ces équipements. Il faut dire que l'équipe de recherche sur les états géomorphologiques est une structure de recherche universitaire qui est au département de géographie à la faculté des sciences de l'homme et de la société. L'équipe est constituée d'enseignants-chercheurs, de doctorants et d'étudiants masterants. Donc nous avons dans le cadre de nos recherches des défis majeurs à relever. Et les axes de recherche portent sur la climatologie, sur la géomorphologie, sur l'hydrologie continentale et marine, la géomorphologie littorale et la géomorphologie continentale. Et de ces actes de recherche découlent des problématiques dans ce contexte de changement climatique, notamment les risques côtiers. Vous avez les submersions marines, vous avez l'érosion côtière, vous avez des tempêtes qui sont de plus en plus récurrentes sur nos côtes. Vous avez la géomorphologie continentale, la dynamique des versants, les inondations liées aux pluies exceptionnelles, etc. Donc pour mener à bien conduire des recherches et qui pourront déboucher sur de bons résultats, il faut développer des compétences. Et pour développer ces compétences, il faut des équipements de pointe. C'est à ce titre que nous avons approché le projet WACA pour pouvoir bénéficier de son appui dans le cadre de l'appui institutionnel que WACA offre. Donc l'Université de Lomé a bénéficié d'un lot d'équipements qui a été réceptionné techniquement en août 2023. Donc parmi ce lot d'équipements, on a un tamiseur constitué de 17 tamis, de mailles comprises entre 20 microns et 4 mm, équipé d'un agitateur et d'un moteur interne pour les analyses granulométriques. Donc on a besoin de connaître la granulométrie des sédiments lorsqu'on fait des études géomorphologiques, lorsqu'on va sur la plage pour collecter les sédiments, les sables, etc. Après on revient au laboratoire pour pouvoir analyser la granulométrie, sévier ce sable-là pour voir quelle est la granulométrie dominante dans le sable de la plage, par exemple. Donc, c'est cet appareil-là qui va nous permettre de pouvoir faire cette granulométrie. On a un GPS différentiel plus une tablette pour faire la géolocalisation. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de cartographie. Si je vais prendre, par exemple, des échantillons sur la plage, après, il faut les projeter. Donc, j'ai besoin de coordonnées géographiques. Et le GPS nous permettra de pouvoir faire la cartographie, de géolocaliser les phénomènes étudiés. Il a l'avantage d'être différentiel parce qu'il est beaucoup plus précis. Nous avons un odomètre calibré depuis l'usine pour mesurer le tassement du sol. Nous parlons aujourd'hui des glissements de terrain. Il est intéressant de comprendre, de voir le tassement de sol, le niveau de tassement des sols, pour voir si un glissement peut se déclencher ou non. On a un appareil de Casagrande pour la mesure de limite d'Alterberg, liquidité et plasticité. Donc, je parlais des glissements de terrain. Donc, pour qu'il y ait un glissement de terrain, il faut une pluie abondante, il faut de l'altération. Donc, il faut voir si ces altérites ont atteint un niveau de plasticité, si l'eau a suffisamment infiltré ces altérites pour pouvoir occasionner un glissement de terrain ou non. Nous avons une éco-sondeur destinée à faire les levées bathymétriques. Nous parlons, par exemple, des recherches marines. Nous allons faire des levées de petits fonds pour faire les cartes bathymétrique, nous allons faire des levées dans les bassins de rétention d'eau, dans la lagune, etc. Donc cet appareil est destiné à pouvoir faire ce travail-là. Nous avons aussi un microscope optique électronique qui nous permet d'observer les plus fines particules. Deux balances pour la pesée des échantillons, une étuve pour effectuer le séchage jusqu'à 300 degrés des échantillons. L'étuve, c'est un four qui permet de sécher rapidement les échantillons. On a un capteur multiparamètre pour la mesure des paramètres physico-chimiques de l'eau, dont la salinité, le pH, la conductivité, etc. Donc ce paramètre nous permet de capter et d'apprécier ses paramètres physico-chimiques au niveau de l'eau. Un diffractomètre laser pour pouvoir analyser les particules les plus fines. J'ai parlé plus haut d'un tamiseur. Le tamiseur nous permet de mesurer, de trier des particules d'au moins 20 micromètres. Donc, si nous avons des particules en deçà de 20 micromètres, il faut faire appel à un diffractomètre laser, par exemple les argiles, etc., pour pouvoir faire leur granulométrie. Et enfin, on a des logiciels. Tous ces appareils sont la plupart connectés à un ordinateur, donc il faut les logiciels pour pouvoir les piloter. Nous avons également des logiciels de cartographie. Nous avons reçu 5 licences de WACA, des logiciels de cartographie, ArcMap, pour pouvoir faire de la cartographie, initier les étudiants à la cartographie, leur donner la pratique du métier de cartographe. Donc, de façon présentée, ce sont les équipements que l'équipe de recherche de l'Université de Lomé a pu acquérir grâce au projet WACA.
Ces équipements que vous avez reçus coûtent pour le projet WACA 88 149 646 comprises. Aujourd'hui, quels sont leurs impacts au niveau de votre département?
Donc, il faut dire que le département de géographie a besoin d'un renforcement de son équipement, de son matériel didactique. Donc, ces équipements viennent renforcer le département de géographie. Et c'est vraiment une valeur ajoutée au département de géographie, parce que le département de géographie, depuis des années, n'a pas reçu ce type d'équipement. C'est très important et c'est vraiment avec plaisir que le département de géographie a accueilli ces équipements.
Et comment meniez-vous à l'époque vos recherches?
À l'époque, nous faisions nos recherches en nous appuyant aussi. Il y a des laboratoires qui existaient avec certains équipements en place. Donc, on les approchait pour pouvoir faire nos analyses. Donc, le département de géographie, n'ayant pas les équipements sur place, on allait vers ces laboratoires-là. En contrepartie, il fallait payer pour les analyses et c'est très coûteux. Et certains de nos étudiants, certains enseignants, vraiment n'arrivaient pas. Donc, on était obligé parfois de ne pas aller au bout même du travail. Donc, on a aujourd'hui ces équipements qui vont nous aider pour pouvoir mieux analyser nos données, mieux analyser nos échantillons.
Donc, à l'époque, c'était des cours purement théoriques?
Bon, on les initiait aux méthodes de laboratoire, mais ils ne faisaient pas la pratique. Ils ne faisaient pas la pratique. Donc aujourd'hui, l'équipement est là, ils pourront pratiquer. Ils pourront faire la pratique de laboratoire.
Et les masters et les doctorants aussi n'avaient pas touché à ce genre de matériel?
Non, ils n'avaient pas accès.
Et quelles seront les conséquences? Ces étudiants que vous avez déjà formés?
Les étudiants que nous avons déjà formés, ils ont déjà des acquis en termes de démarche méthodologique.
Pas des acquis en pratique?
Bon, pas les acquis en pratique. L'équipement est là, ils pourront revenir s'ils veulent se renforcer. S'ils veulent renforcer leurs capacités, on a des techniciens qui sont formés, qui vont les accompagner pour pouvoir renforcer leurs capacités.
L'équipement. Professeur, si vous vous mettez à leur place, que sentirez-vous? Être étudiant pour faire des recherches, mais pas de matériel. La faute est à qui?
Ils ont pratiqué ailleurs. Ils n'ont pas forcément pratiqué au département de géographie. Comme je l'ai dit, il y a par exemple l'agronomie, il y a LNBTP, les laboratoires sur la place étaient là. Donc, ils allaient vers eux pour pouvoir pratiquer. Mais la pratique à l'université...
Au sein même de l'université, au département de la géographie.
Le département de géographie n'existait pas en tant que tel.
Aujourd'hui, au-delà de ça, ces équipements dont on fait allusion ont-ils apporté un plus à l'Université de Lomé?
Oui, les équipements ont vraiment apporté un plus à l'Université de Lomé en termes de valeur ajoutée. Donc ça renforce la compétence des étudiants formés. Ça renforce vraiment leurs compétences. Parce qu'on leur parlait par exemple de l'étuve, il faut aller faire le séchage à l'étuve, ils ne voient pas ce qu'on appelle une étuve. On leur parlait de granulométrie avec un tamis. Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, ils savent le faire. Et ils vont apprendre à mieux le faire.
D'accord. Et les étudiants en géographie, sont-ils les seuls utilisateurs de ces matériels de pointe?
Non. Les étudiants ne sont pas les seuls utilisateurs. C'est un équipement accordé à l'Université de Lomé. Donc, toutes les facultés, tous les départements qui auront besoin de ce matériel, toutes ces facultés pourront s'adresser à notre équipe de recherche. C'est ouvert. Ce n'est pas seulement à l'université, mais à l'extérieur de l'université, il y a des structures aussi qui veulent travailler en utilisant ces équipements, c'est toujours ouvert, mais à condition
quelles sont
ces
conditions
participer.
Ah bon.
Donc on a mis en place une équipe qui va gérer les équipements, donc ils leur donneront les conditions pour pouvoir accéder à l'équipement, parce que nous avons le souci de pérenniser cet équipement. Il a coûté très cher, il faut quand même le protéger pour qu'il ne passe pas quelques années seulement et qu'on dise que l'équipement ne travaille plus.
Aujourd'hui, vous êtes en face du coordonnateur du projet WAKA. Certainement, vous avez d'autres doléances.
Bien sûr, bien sûr. Donc, le département de géographie a d'autres doléances. Nous avons acquis l'équipement. Il y a aussi d'autres équipements qu'on voudrait avoir, les drones, etc., qu'on voudrait également avoir. Je crois que l'équipement aussi, il manque certains accessoires. On voudrait aussi avoir. Donc, on enverra la liste à la coordination de WAKA pour voir si c'est possible, dans les limites de ses possibilités, si WAKA peut encore nous accompagner pour compléter ces équipements afin de renforcer vraiment la compétence de nos étudiants sur les questions des risques côtiers.
Professeur Pizizoum Dieudonné Adoussi, responsable de l'équipe de recherche sur les héritages géomorphologiques et hydrosystèmes. Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Abel, et à votre invité, professeur Adoussi. Et je pense quand même que nous avons compris beaucoup de choses à travers votre entretien que vous avez eu avec professeur Adoussi. Et maintenant, quand on a les équipements, il est très important qu'on soit formé également pour ces équipements. Et donc, en matière de formation, WAKA a fait également un travail alors sur ce plan. Et donc, Juliette va recevoir un autre professeur pour nous parler alors de la question de formation de ces équipements.
Merci Pascal. Je reçois donc professeur Nyongbo Tak Youssouf. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes géomorphologue, directeur honoraire de l'école doctorale des lettres et humanités de l'université de Lomé, membre de l'équipe de recherche sur les héritages géomorphologiques et hydrosystèmes. Professeur, avant toute chose, on a vu tous ces équipements avec l'autre professeur. Je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de prononcer le nom de ces équipements, mais dites-nous, est-ce que pour vous, c'est un bonheur d'avoir tout ce matériel au département de géographie?
Encore une fois, merci beaucoup. Je voudrais à mon tour aussi remercier le projet WAKA pour avoir permis au département de géographie, par le truchement de l'université, tous ces équipements. Alors, comme vous le savez, et par le passé, les étudiants de géomorphologie, il est vrai, on recevait des cours théoriques, mais pour faire la pratique par rapport aux échantillons qu'on récoltait sur le terrain, il fallait aller ailleurs, puisque au département, il n'y avait aucun équipement. Il n'y avait rien du tout, rien, rien du tout. Seul, à l'école d'agronomie, il y avait au moins le granulomètre avec les tamis où on pouvait faire un peu la granulométrie. Et au-delà, il fallait aller à l'Institut national des sols, aujourd'hui l'ITRA, pour faire au moins ces analyses. Bon, aujourd'hui, que WAKA a mis à notre disposition vraiment tout ce matériel si important, nous pensons que, d'abord, la première des choses, c'est de renforcer la formation théorique. Parce qu'il s'agit ici de faire de la sédimentologie. Parce que tout ce qui a été relevé par le directeur du laboratoire de télétechnologie, le professeur Adjoussi, il a insisté sur les risques d'érosion, les risques d'inondation, et il a parlé des limites d'Atterbeck en mettant l'accent sur l'appareil de Casagrande. Ça concerne les régions montagnardes. Comme dans nos milieux ici au Togo, c'est dans la région des plateaux, dans le massif d'Agou, où on peut avoir des versants qui sont soit stables, des versants qui sont pénistables ou des versants qui sont instables. Alors pour aller déterminer tout cela, donc déterminer ce qu'il a appelé la limite d'Atterberg, c'est-à-dire la limite de plasticité ou bien de liquidité du matériel qui se trouve sur ces versants, il faut procéder les analyses par l'appareil de Casagrande par exemple. Au niveau des littoraux, comme nous le savons, il y a plusieurs types de littoraux. Il y a des littoraux sableux. Nous avons la chance d'avoir un littoral qui est sableux. Là aussi, on doit faire de la granulométrie pour voir à peu près la nature du matériel. Au-delà même de cette granulométrie, c'est qu'il faudrait voir par rapport aux sédiments qui sont mobilisés, soit par les cours d'eau en direction de la mer, donc du littoral, soit par la mer elle-même. Est-ce que les éléments qui sont mobilisés ils sont de quelle nature? Donc, il y a un autre type d'appareil qu'il a énoncé tout à l'heure, le microscope électronique à balayage, par exemple, qui peut permettre de voir à peu près l'état de surface du matériel mobilisé. Donc, ça permet de voir d'où viennent ces minéraux qui sont arrivés jusqu'au littoral, leur nature, et si c'est des minéraux qui sont facilement enlevables par l'érosion ou non. Et de ce point de vue, la formation que nous voulons entreprendre maintenant, au-delà de la théorie, le matériel étant là, je pense que nous mettrons l'accent d'abord sur la formation des étudiants. Et juste une petite histoire, entre-temps, lorsque moi j'allais faire ma maîtrise de géomorphologie, bien qu'il n'y avait pas de matériel...
Vous l'avez faite ici à Lomé?
Oui, à Lomé ici. Bien qu'il n'y avait pas de matériel au département de géographie, donc le département de géographie, à l'époque, je dis bien à l'époque, disposait enfin de matériel assez intéressant qui m'ont permis de faire le travail et obtenir ma maîtrise de géomorphologie. Aujourd'hui que nous-mêmes, nous avons ce matériel, d'abord, il faut connaître ce matériel. C'est pour cela que, dès que nous avons réceptionné le matériel, le fournisseur est venu nous montrer à peu près les caractéristiques techniques de tous ces matériels évoqués par le directeur du laboratoire. Et ensuite, il a essayé de donner quelques bribes de formation donc, aux doctorants, aux docteurs qui sont avec nous, pour qu'ils puissent commencer par prendre la main. Mais comme cela ne suffisait pas, je crois qu'à ce niveau, Waka aussi est intervenu pour apporter un appui à cette formation et permettre à nos docteurs qui doivent peut-être prendre en main donc, tout ce matériel, d'aller approfondir la formation là où ce matériel existe. Et c'est en cela que le directeur du laboratoire parlait du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, où ils se sont formés. Je pense qu'ils reviendront pour nous dire à peu près quelle est la formation qui a été reçue. Est-ce que la maîtrise a été atteinte? Nous le saurons tout à l'heure. Je vais m'arrêter là.
Peut-être oui, professeur, on voit clairement que c'est que du bonheur d'avoir ce matériel au département de la géographie. Et puis, vous avez également suivi une formation avec le fournisseur pour optimiser l'utilisation. Mais je pense aussi qu'il doit avoir... des mesures, des pratiques pour optimiser la pérennité de ces équipements reçus. Est-ce que vous les utilisez déjà, ce matériel? Vous l'utilisez déjà?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire.
Oui. Mais dans la pratique, quelles sont les dispositions prises pour minimiser ou optimiser la rentabilité, la durabilité
Dans la pratique, en attendant que la formation soit complète, solide pour ceux-là que nous avons désigné pour suivre cette formation. Je crois que c'est tout comme quand vous allez à l'école, vous recevez un cours de mathématiques. Lorsque vous arrivez à la maison, il y a des exercices, vous les faites. Le matériel étant là, eux, ils vont continuer par peaufiner pour pouvoir d'abord arriver à la maîtrise de tous ces outils. Et c'est ça qui va permettre maintenant, dans la formation pratique qu'on donnera aux étudiants, donc c'est les mêmes personnes qui vont le faire.
On a également vu avec professeur Adjoussi qu'il n'y a pas que les étudiants du département de géographie qui utilisent le matériel. Tous les étudiants de l'Université de Lomé qui en ont besoin peuvent aussi s'adresser au département. Comment cela se passe?
Je pense que dans les procédures qui sont enclenchées entre le département de géographie et l'Université de Lomé, par ricocher la faculté des sciences de l'homme de la société, c'est qu'une fois que ceux-là qui ont été désignés pour se former et entretenir ce matériel, je crois que d'abord, un recrutement doit être fait. Une fois que le recrutement est fait, ça veut dire que c'est des gens qui seront à temps plein dans le laboratoire qui serait dédié donc à ces équipements. Et par la suite, au-delà de nos étudiants de géographie, si par exemple les étudiants d'autres facultés ou d'autres écoles, puisque ces appareils, avec ces appareils, les analyses sont tournées vers la reconnaissance du matériel, c'est-à-dire la nature du matériel. Quand on dit matériel, il s'agit d'informations superficielles. Or, l'information superficielle, il y a les sols qui sont des formations superficielles, ça c'est le travail des pédologues. Il y a la reconnaissance des altérites. Les altérites, c'est du matériel altéré, c'est-à-dire les roches ont été altérées et ont laissé un produit dont il faut connaître la nature. Est-ce que c'est des altérites qui sont sableuses, ou des altérites argileuses ou argileuses sableuses? Donc tout ceci permet d'arriver à connaître à peu près la nature et la stabilité ou l'instabilité de ce matériel. Donc, d'autres étudiants de géologie, par exemple, peuvent aussi, s'ils le désirent, approcher le département de géographie et avoir au moins à utiliser ces équipements. Il y a aussi les étudiants qui font peut-être d'autres écoles, hein, puisque les analyses sont à la fois biochimiques, chimiques, minéralogiques, etc., granulométriques. Donc, ça veut dire que c'est ouvert quand même à tous les étudiants, pas seulement que les étudiants du département de géographie, et particulièrement les géomorphologues.
Professeur Nyongbo, l'entretien même du matériel, qu'est-ce qui est prévu pour son entretien?
Bon, là, pour l'entretien du matériel, je crois que c'est le directeur du laboratoire qui peut répondre à cette question, puisque c'est le patron qui sait à peu près.
D'accord, mais à ce stade...
Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau?
À ce stade, quelles sont vos attentes à ce stade du projet, avec l'acquisition de cet équipement et tout le travail qui est en train d'être déroulé? Est-ce que vous avez des attentes?
Bon, les attentes sont nombreuses. Mais comme je viens de le dire, ce qui est important maintenant, c'est qu'on recrute des collègues qui doivent s'occuper de ce matériel. Et c'est en cela qu'on pourra d'abord pérenniser ces matériels. On pourra mieux les entretenir. Il y aura des gens qui veillent sur ces matériels. Et en ce moment-là, je pense que Waka n'aurait pas jeté l'argent par la fenêtre.
Professeur Nyongbo Taki Youssouf, géomorphologue, directeur honoraire de l'École doctorale des lettres et humanités de l'Université de Loubé, merci pour cette intervention.
Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup à vous, Juliette, et votre invité, bien sûr. Vous avez parlé alors de la question alors de formation. Et au-delà même d'ailleurs de cette question de formation, vous avez parlé aussi alors des attentes, hein, des attentes surtout alors de ce département par rapport à tout ce qui se fera par après dans les perspectives, bien sûr. Et donc, je le disais au début alors de cette émission que nous sommes en train d'animer cette émission à Lomé, au siège alors de Waka. Mais nous allons rapidement rallier Kara pour retrouver professeur Alpha Sika. Professeur Alpha Sika qui sera en ligne avec nous, bien sûr. Professeur, bonjour. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Voilà, j'espère que vous allez bien.
Oui.
Vous nous recevez, professeur? Allô, professeur?
Oui, je vous reçois.
Ah. Vous êtes doyen de la faculté des sciences. Allô, professeur. Je disais que vous êtes doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara. Et effectivement, nous parlions même d'ailleurs des équipements que vous avez reçus, et c'est de la part de Waka, et c'est pour améliorer la recherche à l'université de Kara. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous avez reçu comme matériel?
Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de remercier le projet Waka à travers son coordonnateur et son équipe. Alors, vous savez que l'Université de Kara, à travers la faculté des sciences et techniques, elle a été créée le 17 octobre.
Allô, professeur? Allô, professeur? Il semble que nous avons un souci de connexion.
Oui, allô?
Oui, voilà.
Oui, tout à fait. Il y a eu des laisses. Donc, voilà.
OK.
Donc, je disais que la faculté des sciences et techniques, Elle a été créée le 17 octobre 2007, justement pour essayer de... la société, impacter sa société. Donc, elle s'est proposée de créer des formations adaptées au marché de l'emploi et qui sont d'ailleurs dans les domaines prioritaires du gouvernement togolais. Donc, suite à cela, nous avons créé un certain nombre de filières techniques. Quand on dit technique, ça veut dire cela suppose avoir vraiment des équipements de pointe. Et c'est au lendemain de la création de la licence océanographie.
Allô, professeur?
Et à travers cela pour que... Oui, allô?
Oui, allez-y, puisque
alors,
ça
s'est entrecoupé. Alors, vous m'écoutez, il y a problème de connexion. Donc, c'est au lendemain de la création de la filière professionnelle océanographie. Nous avons sollicité le projet WACA pour nous appuyer en équipement. Donc, les équipements que nous avons pu recevoir à travers le projet WACA, nous avons le spectro atomique par génération hydru. Justement, cet appareil permet de déterminer les concentrations des éléments transmétalliques dans les eaux, dans les sols, et aussi, ce qui est très important également, on peut déterminer ces concentrations.
Perdu le contact avec professeur.
La connexion.
Oui, justement, c'est la
connexion. Oui, la connexion, voilà. Connexion qui. Requérie à travers le projet WACA. Nous avons le photomètre de flamme pour doser les éléments, les ions sodium, le potassium, le lithium, le baryum et le calcium dans les milieux aqueux. A aussi un analyseur de carbone organique total. Donc, c'est très, très important de vérifier le carbone organique dans les eaux, que ce soit les eaux de la mer, que ce soit les eaux potables, justement pour que... les produits de désinfection et du coup, on aura... Allô,
oui,
est-ce que vous m'écoutez? Voilà, donc je disais qu'on avait un total, justement pour déterminer tout ce qui est les substances organiques dans les eaux et dans les sols. Il y a aussi, on a eu une unité de distillation pour justement qui va permettre la détermination de l'azote total, c'est-à-dire l'azote kédiédal, et puis également les protéines et également les alcools. Justement, on peut déterminer tous ces polluants-là, que ce soit dans les poissons, que ce soit dans les eaux. Nous avons également un débiomètre que nous avons acquis à travers le projet WACA, justement pour déterminer la demande biochimique en oxygène, et c'est pour évaluer l'activité microbienne à travers les eaux. Alors, nous avons aussi obtenu un oxymètre portatif pour mesurer le taux d'oxygène dans les eaux, surtout au niveau de la côte, justement pour vérifier les informations par rapport à l'oxygène. Il y a aussi un multiparamètre portatif que nous avons eu également. L'appareil peut mesurer à la fois le pH, à la fois la conductivité de l'eau et également la salinité dans les eaux. Un autre appareil que nous avons appris très important également, c'est le turbidimètre portatif pour vérifier la qualité, que ce soit la qualité des eaux potables que nous buvons, également aussi au niveau de la côte également pour vérifier la qualité de l'eau. Donc voilà les équipements en termes des équipements de laboratoire que nous avons acquis à travers le projet WACA. Je vous remercie.
D'accord, merci beaucoup, professeur. Alors, professeur, c'est quoi aujourd'hui l'impact de ces matériels sur la recherche que vous faites dans votre département à Cara?
Alors, Avant de répondre à votre question, permettez-moi aussi de préciser qu'à travers le projet WACA, nous avons aussi eu une salle de visioconférence de 150 places qui a été équipée et aménagée. Voilà. Donc, je voudrais ajouter cela. Maintenant, par rapport à votre question, l'impact, nous avons eu vraiment deux impacts majeurs. Il y a l'impact pédagogique et l'impact sur la recherche. En ce qui concerne l'impact pédagogique, ce matériel est vraiment venu à point nommé pour essayer d'améliorer le plateau technique de nos parcours licence, tels que je vous ai cité la licence océanographie et application. Il y a aussi d'autres licences tels que contrôle qualité et sécurité sanitaire des aliments qui s'appuient aussi fortement sur la côte pour vérifier la pollution marine, tout cela. Il y a aussi le renforcement des conditions d'expérimentation dans les cursus de licence. Ça a permis vraiment d'apporter un plus à nos étudiants en termes de travaux pratiques. Il y a aussi, nous sommes actuellement d'initier à ces étudiants l'utilisation de ces appareils-là. Maintenant, en termes de l'impact sur la recherche, alors, il faut dire qu'aujourd'hui, la faculté des sciences et techniques, nous avons, ce qui est lié sur l'environnement, nous avons quatre masters aujourd'hui. Et c'est grâce à ce projet-là que nous avons mis sur pied ces masters-là, justement, pour permettre de préparer leur mémoire. Leur mémoire, tel que vous avez le master Oyassinissement, dont je suis le responsable scientifique. Il y a aussi le master chimie de l'environnement, il y a le master chimie organique et le master nutrition et sécurité alimentaire. Voilà. Il y a également aujourd'hui, nous formons également les doctorants. Actuellement, grâce à ce projet, nous avons pu au moins former 4 thésards actuellement qui ont déjà soutenu leur thèse. Il y en a certains qui sont en cours de préparation de leur thèse grâce à ce matériel-là. Voilà. Je vous remercie.
Voilà. Professeur, vu la technicité alors de ce matériel, en dehors de vos étudiants, y a-t-il d'autres facultés ou universités de la sous-région qui vous sollicitent pour des analyses?
Tout à fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'Université de Cara a un institut supérieur des métiers de l'agriculture qui nous sollicite fortement, très fortement. Donc, on les appuie en expertise. Il y a également les universités béninoises qui aussi qui nous sollicitent pour un certain nombre d'analyses, puisque eux aussi, ils n'ont pas eu la chance comme nous. Nous, on a eu la chance. Il y a aussi les universités de la Côte d'Ivoire aussi qui nous sollicitent en termes d'analyse. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela.
D'accord. Alors, en général, aujourd'hui, en matière de recherche alors à l'Université de Cara, quels sont les défis à relever?
Alors, le défi, il faut d'abord vraiment saluer le coordonnateur du projet qui vraiment a eu une vision très claire pour appuyer les universités. Aujourd'hui, le développement de nos pays doivent partir des universités. Et il a vraiment vu cet angle-là. Il a eu une vision très claire par rapport à cela pour essayer de nous appuyer en termes de cela. Mais quand même, il y a eu un certain nombre de défis que nous confrontons. Et d'ailleurs, même en l'instant où je vous parle, il y a deux de mes étudiants qui sont actuellement en France parce qu'il y a manque d'appareils qui leur permettent de continuer dans leur thèse, tels que quand vous prenez pour l'analyse des polluants organiques persistants, que ce soit sur la côte, que ce soit aussi dans les eaux et dans les sols. Il y a aussi les appareils de chromatographie ion que nous avons vraiment aussi besoin. Il y a également le ICP, ICP vraiment pour l'analyse des éléments transmétalliques, vraiment à des concentrations très, 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 très faibles. Il y a aussi les HPLC pour l'analyse, si vous voulez, des compositionnés et nutritionnels pour le contrôle qualité des aliments. Il y a aussi les microscopies Raman pour l'analyse des microplastiques dans les eaux et les produits halieutiques. Donc voilà, hein, ces appareils qui nous manquent et du coup on est obligé de faire appel aux universités extérieures.
D'accord, merci beaucoup professeur. Professeur Alpha Sika, vous restez avec nous puisque le débat continue ici, bien sûr, mais des étudiants auront certainement des questions à vous poser déjà sous le coup de midi. Et nous rappelons à nos auditeurs que déjà à partir de midi, ils peuvent nous contacter sur le 91 36 63 75 pour poser des questions aussi aux professeurs qui sont avec nous ici. Mais quand on parle alors de professeurs, on parle aussi alors des étudiants qui ont bénéficié aussi de ces équipements puisque leurs travaux de recherche tournent, enfin, ces équipements les aident ou les accompagnent à mieux faire leurs travaux de recherche. Et donc, nous avons quelques étudiants avec nous ici dans la salle. Et là, Jean-Marie Gonçalves, vous allez poser quelques questions à ces étudiants concernant surtout les avantages qu'ils ont eu à travers l'utilisation alors de ces équipements. Jean-Marie.
Oui, merci Pascal. Nous avons une équipe composée de docteurs déjà. Ils ont déjà dépassé l'étape d'étudiant. Et nous avons également un étudiant qui nous est venu de l'université de Kara. Nous allons y aller rapidement d'abord avec docteur Olalon Tini Kodjo. Il est assistant de recherche justement dans cette équipe de recherche. Et bonsoir docteur, bonjour plutôt. Bonjour. Docteur Olalo.
Bonjour.
Voilà, j'espère que vous vous portez bien.
Oui, ça va.
Depuis octobre 2023, si je ne m'abuse, vous bénéficiez de ces matériels. Dites-nous en quoi ces équipements vous ont servi concrètement dans vos recherches.
Ok, merci beaucoup pour l'initiative et l'émission. Et en octobre, on a réceptionné ce lot d'équipements. Et après ça, on a eu une formation de 2 jours. Donc la formation, en termes d'acquis, ce n'était pas ça. Donc, on a compris qu'il fallait voir les spécialistes. Donc, à travers le directeur du labo, on a introduit une lettre au niveau de LMBTP. Et on a fait 1 mois de stage là-bas. Donc, durant ce stage, et les techniciens ou bien les ingénieurs nous ont permis d'avoir la main. C'est-à-dire, on a travaillé dans un premier temps sur l'analyse granulométrique des particules. C'est-à-dire, quand on prend le sol, on va voir quelle est la proportion. Est-ce que c'est du sable qui est dominant? Est-ce que c'est des argiles? Est-ce que c'est des limons? Donc, ça a une importance, parce que si on veut construire, par exemple, ou bien si on veut expliquer les questions d'inondation, les zones qui sont argileuses, la granulométrie est fine. Ça veut dire que l'espace entre les pores, c'est-à-dire l'espace plutôt entre les grains, est très réduit. Ça veut dire que l'infiltration sera faible dans ces milieux. Alors que les zones de sable, où les particules sont plus grossières, vous avez une forte infiltration. Donc, à part ça, on a travaillé également sur les questions de le matériel qu'on appelle Casa Grande, qui permet de ressortir les limites de plasticité et de liquidité. J'explique ça. Bon, lorsque vous prenez, par exemple, on va sur le plateau du Daï, ça veut dire qu'en saison pluvieuse, vous avez des glissements de terrain. Un sol à une capacité donnée est obligé, sous l'effet de la pente, de glisser. Donc ce matériel, c'est son rôle. Ça nous permet de voir quels sont, c'est-à-dire, quel est le comportement, par exemple, d'un relief. Si on prend l'exemple du massif d'Agou, il faut faire ces études-là avant de lancer, par exemple, un projet d'aménagement. Avant de construire une ville touristique, par exemple, sur le pic d'Agou, il faut ces analyses-là. Bon, troisième élément aussi, on a travaillé sur le 2 mètres. Bon, le 2 mètres qu'ils ont de leur côté, bon, à des caracés, ce n'est pas automatique, contrairement à ce qu'on nous a donné. Mais ça nous a permis au moins d'avoir des notions liées au retrait gonflement. Nous sommes dans une zone inondable. Quand les Chinois viennent, ils payent des zones inondables chez nous, si vous le constatez. Mais ils ont la capacité de construire, parce qu'on n'avait pas cette technologie. Donc, le retrait gonflement nous permet, par exemple, de voir sur tel sol, ce que nous voulons construire, quel nombre de tonnage est habilité à rester sur ce sol. C'est des erreurs que le Togo avait fait dans le passé. Donc, voilà des éléments que je peux apporter.
Visiblement, ces équipements vous ont beaucoup aidé dans vos recherches.
Oui, ça, c'est volet formation. Donc, après les 1 mois, Nous avons lancé au sein de notre laboratoire, nous avons deux axes de recherche actuellement qui vont nous permettre de, chaque labo par an, il faut publier des articles. Donc nous sommes sur deux axes de recherche et la première est consacrée avec les logiciels qu'on a acquis sur la dynamique, c'est-à-dire la cartographie des écosystèmes humides du lac Togo, notamment les mangroves. On veut voir un peu, si nous prenons à l'échelle de 30 ans, on veut apprécier quelle est la dynamique, parce que les projets viennent. Est-ce qu'il n'y a pas une forte emprise humaine sur le milieu? Sinon, si les hommes reboisent, ça veut dire que, autrement dit, il y a le changement climatique qui a ses effets aussi sur la survie de ces écosystèmes. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Deuxième élément, nous travaillons également sur les dépressions fermées de la ville de Lomé qui ont été construites il y a une dizaine d'années. Vous voyez, ces dépressions, au fil des ans, il y a un comblement qui se crée. Donc, l'éco-sondeur, par exemple, nous permet de faire des levées bathymétriques et de modéliser ces dépressions. Et c'est en cela qu'on nous dira que, on vous dira un jour que, en 10 ans, par exemple, cette dépression soit appelée à disparaître. Parce qu'après l'alluvionnement, une dépression se transforme en une zone de plaine. Et donc, voilà ces éléments. Actuellement, c'est sur ce sur quoi nous travaillons. Bon, donc d'ici un an, deux ans, vous aurez quand même des résultats sur ces aspects.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup.
Jean-Marie, vous permettez que je vous coupe parce que nous avons un impératif au niveau de la technique de l'autre côté, puisqu'il est midi et tel que je le disais, à midi, il y a nos annonceurs également qui doivent intervenir à travers des spots, bien sûr. Donc, nous allons rapidement faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons pour poursuivre cet entretien que vous avez avec le docteur. Merci.
93.5.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse que nous animons depuis le siège de Ouaka. Et nous discutions alors des équipements que les universités du Togo, les deux universités privées, publiques, pardon, du Togo ont reçus de la part de Ouaka pour les recherches, bien sûr. Et donc, nous sommes en train de parler alors de tout ce que ces bénéficiaires, surtout ce qu'ils ont reçu comme avantage et ce que les équipements leur apportent alors comme avantage au cours de leurs travaux. Et donc, Jean-Marie, vous étiez en train de discuter avec docteur. Si vous pouvez continuer la discussion, je pense qu'il y a encore d'autres étudiants ou d'autres bénéficiaires également de ces équipements. Donc, rapidement, vous pouvez y aller.
Merci. Justement, nous allons passer le micro d'un docteur à un autre docteur, monsieur Adjaro Kwame Dodji. Voilà, docteur également membre de l'équipe de recherche. Vous êtes beaucoup plus spécialisé dans la gestion des risques côtiers. Docteur Adjaro, dans vos travaux de gestion des risques côtiers, quel a été l'apport, justement, des équipements de Ouaka?
Oui, merci beaucoup et merci pour l'opportunité que Ouaka nous offre aujourd'hui pour parler un peu des acquis que nous avons pu bénéficier des matériels que le Ouaka nous a offerts. Comme vous l'avez dit, moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans la gestion des risques côtiers. Et les deux matériels que j'ai utilisés, c'est surtout le GPS différentiel et le capteur multiparamètre. Le GPS différentiel nous permet de faire le suivi de l'évolution du trait de côte. Bon, pendant des années, on l'avait déjà fait. À Plaou, à Hirakondi, on le fait à pied en 3 jours. Et on prend les différentes positions du trait de côte. Avant, on le faisait avec les GPS de poche, les GPS de poche. Mais avec le GPS différentiel, on a plus de précision en termes d'évolution du trait de côte. Parce que le suivi se fait de manière mensuelle. Donc parfois, les évolutions à vue d'œil sont difficiles à percevoir. Mais avec ce GPS différentiel, on est à des précisions du centimètre près. Donc, ça vraiment permet, surtout après les travaux d'aménagement et de construction des épis dans les zones sensibles ou de l'érosion, le suivi va vraiment permettre de d'abord vérifier si les ouvrages posés ont réellement répondu aux attentes. Est-ce que ces ouvrages ont provoqué de l'engraissement ou bien au contraire, ils ont aggravé l'érosion en aval de ces ouvrages-là. Donc, voilà un peu à quoi nous a servi le GPS différentiel. Alors, le capteur multiparamètre nous aide beaucoup plus dans les questions de pollution. Vous savez, l'océanographie se fait aussi sur le plan chimique et physico-chimique, je dirais. Donc, le capteur multiparamètre nous permet de pouvoir faire des collectes de données sur les paramètres physico-chimiques, que ce soit le pH, l'oxygène dissous, la conductivité, la salinité surtout. Et cela nous permet également, sur d'autres bassins, c'est-à-dire au niveau même des puits, au niveau du littoral, pour vérifier si le biseau salé, c'est-à-dire le biseau salé, n'a pas atteint les puits que les populations utilisent pour l'eau de consommation. Et vous allez voir que, bon, dans le secteur de déjà Goumoukopé jusqu'à Edokondi, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de puits qui sont déjà atteints par le biseau salé. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population, au niveau de Gou, n'arrive pas à percevoir. Bon, parfois, on vous dit que avant, quand on utilisait l'eau pour la vaisselle ou la lessive, c'était moussant. Mais maintenant, l'eau ne mousse pas. En fait, c'est une question de salinité. Voilà. Donc, le multiparamètre nous a vraiment permis de pouvoir...
Visiblement, avec ces matériaux, il y a eu beaucoup plus de précision dans les choses. En tout cas, merci beaucoup. On va finir rapidement, Pascal, si vous permettez, avec l'étudiant qui nous est venu de Kara. Et il est en année de licence, monsieur Magnangou Emmanuel. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes étudiant en troisième année en licence professionnelle en océanographie et application à l'Université de Kara, à la Faculté des sciences et techniques, à part département de physique. Et vous allez souvent en haute mer, c'est ce que vous m'avez confié en off. Parlez-nous un peu de ce que vous y faites, avec quel équipement.
Ok. Avant tout propos, permettez-moi de dire merci à monsieur le coordinateur et aux fournisseurs de ces instruments et leur dire merci pour l'intérêt qu'ils portent pour les sciences marines. J'ai eu la chance de participer à l'échantillonnage en mer plusieurs fois par le biais d'un projet Nippon Foundation. Et nous mesurons souvent la température de l'eau, la salinité et l'oxygène dissous. Mais très souvent, nous aurions vraiment voulu mesurer beaucoup d'autres paramètres, mais compte tenu du manque d'instruments, nous nous limitons à cela. Et d'autres échantillons, nous les collectons et envoyons à l'Université de Lomé pour échantillonnage, ce qui coûte très cher et aussi ne nous permet pas à nous les étudiants de vraiment manipuler ces échantillons pour pouvoir connaître le contenu, pour pouvoir vraiment connaître ce qui se trouve dans nos eaux côtières.
Et je comprends qu'il y a encore des matériaux qui vous manquent, c'est ça, pour l'océanographie, c'est ça?
Oui. Et bon, je suis en troisième année, nous sommes là pour un stage pour soutenir à la fin de l'année. Une camarade aurait vraiment voulu travailler sur les espèces, les variétés d'espèces qui existent dans les eaux de notre côte togolaise. Et malheureusement, compte tenu du manque d'instruments, elle était obligée de changer de thème et travailler au niveau de la namette. Donc si c'est qu'on avait vraiment d'instruments, ça serait une très bonne thématique développée pour nous de connaître les espèces de phytoplancton et consorts qui existent dans nos eaux. Et aussi, ça nous permettrait vraiment de toucher du doigt les cours théoriques que nous recevons, manipuler les échantillons.
En tout cas, merci beaucoup. Hein. Visiblement, Waka en fait, mais il reste encore. Le besoin est toujours là, Pascal. Voilà un peu ce que les étudiants ou bien les docteurs en font avec le matériel et les besoins qui restent toujours. Bah, voilà.
Merci beaucoup Jean-Marie pour cette intervention avec les bénéficiaires, ceux qui sont même en contact avec ces matériels à travers leurs travaux de recherche. Merci beaucoup à vous. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent facilement nous appeler sur le 91 36 63 75. 91 36 63 75 pour poser des questions. Nous sommes avec des professeurs d'université de Lomé, des universités de Lomé et de Kara, et aussi des étudiants ou de doctorants et masterants aussi. Alors, nous revenons au professeur en attendant les réactions, enfin,
Les étudiants également dans la salle peuvent poser des questions. C'est le lieu de poser des questions à, au professeur ou même d'ailleurs aussi au coordonnateur de Ouaka. Maintenant, nous revenons au coordonnateur de Ouaka. Monsieur le coordonnateur, vous avez écouté tout. D'accord, coordonnateur, si vous le permettez, nous allons recevoir cet auditeur-là qui est en ligne. Allô? Ah, il est parti. 91 36 63 75 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, ça va.
Votre nom c'est?
Mon nom c'est Adam.
Abbas?
Adam.
Ok, allez-y.
Moi j'appelle M. Lagué. Allô?
Allô, je vous écoute, allez-y.
Oui, je suis capable de vous. Oui, allô.
Oui, oui, allez-y.
Bonjour.
Oui, bonjour, allez-y.
J'appelle pour vous. Est-ce que ça peut aller?
Oui, ça peut aller, allez-y. Non, non, je pense que vous êtes le seul à être en ligne, nous écoutons. Allez-y, vous y êtes, allez-y.
Ok, d'accord.
Je pense que notre ami ne nous suivait pas. Nous sommes en train d'animer une émission spéciale aujourd'hui. Hein. Nous animons une émission spéciale et c'est avec Ouaka et c'est la radio du littoral, bien sûr. Docteur, avant de recevoir encore notre auditeur, 91 36 63 75, c'est notre numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Docteur, je disais que vous avez écouté les uns et les autres. Il y a des professeurs qui nous ont parlé alors de ces équipements reçus. Il y a aussi les étudiants qui nous ont parlé aussi de l'avancée hein, que connaît aujourd'hui ce qu'ils font hein, comme travaux de recherche. Est-ce qu'aujourd'hui Ouaka se satisfait de tout cela?
Bon, plus qu'une satisfaction, en fait, je suis d'abord réconforté hein, quand j'entends tout ce qui est dit. Et parce que en réalité, comme je le dis, quand nous on discutait, on initiait l'appui, on ne voyait pas les choses aussi grandes que ce que cela devient aujourd'hui. Parce que quand on voit un peu par rapport aux impacts, par rapport aux avantages que les uns et les autres tirent de cela, c'est assez réconfortant de savoir que pour peu, on contribue vraiment grandement à des choses aussi importantes sur le plan pédagogique que sur le plan de la recherche. Je vous dis tout honnêtement que ce que j'ai écouté ici me donne tout le bonheur hein, d'avoir fait ce que nous avions fait hein, parce que les différentes interventions et les témoignages que les uns et les autres ont fait aujourd'hui témoignent que c'était approprié ce qui a été fait. Bon, ce que je veux dire, c'est que à travers tout ce qui a été dit, il y a, comme vous voyez, il y a une certaine complémentarité intra-université. Quand on voit un peu, et par rapport à ce que les gens ont dit, que ce n'est pas seulement la faculté des sciences et techniques de CARA, ou ce n'est pas seulement l'équipe de TUC qui bénéficie des équipements, ça sert à toute l'université. Je crois que c'est des choses vraiment très intéressantes à voir. Bon, maintenant, comme ils l'ont dit, vous savez, un projet, c'est un budget, c'est des actions, c'est des résultats. C'est vrai qu'un premier appui a été fait. Il est tout à fait normal qu'on peut penser à la consolidation. Et je crois que c'est dans ça que s'inscrit un peu peut-être les nouvelles doléances. Comme je le dis, il faut toujours avoir une approche d'échange et de discussion avec les partenaires, qui sont les universités, pour voir comment est-ce que ces nouveaux besoins qui viennent consolider ce qu'on est en train de dire peut être envisagé. Bon, le projet aussi en lui, comme je le dis, c'est un budget, c'est un certain. Donc, il y a un certain nombre de considérations qu'on examinera. Mais quand on voit déjà que ce que nous avions fait a déjà un fort impact, je crois que ça pousse à continuer plus. Et je crois que nous échangerons avec les différentes universités pour voir dans quelle mesure on peut encore faire plus pour améliorer ce qu'ils sont en train de faire actuellement.
D'accord. Je pense que ça rassure les professeurs qui sont ici avec nous, puisque vous l'avez dit que les échanges vont continuer pour aussi voir dans quelle mesure d'autres améliorations pourront être faites. Alors, je posais entre-temps une question au professeur Alpha Sika, mais je voudrais poser cette même question au professeur Adoussi. Professeur, alors, dites-nous aujourd'hui, c'est quoi l'état de financement, surtout de la recherche à l'Université de Lomé?
L'état du financement de la recherche à l'Université de Lomé. Vous savez, à l'Université de Lomé, nous n'avons pas un budget de recherche en tant que tel. On ne peut pas dire que les structures de recherche sont financées par l'Université de Lomé. Donc, les structures de recherche sont obligées de chercher des partenariats pour pouvoir avoir ces financements-là.
Et sur ce point, qu'est-ce que l'État fait concrètement?
Alors, les discussions sont en cours pour le financement de la recherche. Donc, on continue toujours pas à discuter avec l'État, voir comment on peut financer la recherche, peut-être donner un pourcentage du budget national à la recherche pour pouvoir encourager la recherche, soutenir les centres de recherche et les laboratoires de recherche.
D'accord. Alors, voilà, coordonnateur.
Oui, bon, il y avait une précision que j'ai voulu aussi apporter. D'accord. C'est-à-dire que tout le long du truc, on a dit le projet WACA a fait, le projet WACA a fait. En réalité, comprenez que le projet WACA, c'est le gouvernement. En fait, c'est l'argent de l'État, en réalité, qui, à un moment donné, est orienté pour faire des actions précises. Donc, ça reste toujours une intervention de l'État et que tout ce qui est fait dans le cadre du projet WACA aussi, c'est les efforts de l'État par rapport à l'appui aux différentes choses qui sont faites.
Cette précision, détail, c'est très important, bien sûr. Alors, si vous avez des questions, chers étudiants, vous avez des questions, vous avez des interventions à faire, c'est le moment. Vous pouvez juste lever votre petite doigt pour demander la parole et poser votre question ou intervenir comme cela se doit. Mais également, nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler sur le 91 36 63 75. 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que nos auditeurs peuvent facilement intervenir et poser aussi des questions comme cela se doit. Dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Des questions au professeur? Il y a le professeur Alpha Sika qui est en ligne depuis Cara. Il y a des professeurs également ici qui sont de l'Université de Lomé. Si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment de leur poser ces questions. Et aussi d'autres confrères. Hein. Voilà, il y a Félix Dossavi qui a une question à poser. Félix.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour, professeur. Et je me mets à la place des auditeurs, Félix Dossavi, RTDS Anéo. Et c'est pour demander l'éloignement. Est-ce que l'éloignement de l'Université de Cara par rapport à l'étude océanographique et ne serait pas un handicap pour un travail bien fait? Et voilà, c'est ma question.
Voilà, je pense que la question est adressée au professeur Alpha Sika depuis Cara, c'est ça. Mais je ne sais pas si le professeur nous a cédé. Allô? Professeur?
Aïe, aïe, aïe.
Il n'est plus connecté.
Alors, si le professeur.
Si des professeurs de l'Université de Lomé qui sont avec nous peuvent répondre à cette question. Professeur Adoussi?
Oui, merci beaucoup pour la question. Bon, je crois qu'en termes de recherche, l'éloignement n'est pas un frein, un handicap en tant que tel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils de communication. On peut prendre les étudiants, les amener ici. Cara, c'est à 400 km de Lomé. Je crois que ça ne pose pas. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup plus de logistique, mais ça ne doit pas constituer un frein pour la recherche, pour l'enseignement. Je crois que nous avons reçu même des étudiants de CARA en stage. Il y avait des étudiants de CARA en stage à Waka ici. Ils viennent régulièrement faire le terrain sur la côte, aller jusqu'à Nehor, faire des observations, faire des mesures. Je crois qu'aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir résorber cette question de distance. Merci.
Merci beaucoup, professeur. Il y a également l'étudiant, notre cher ami étudiant, qui veut aussi apporter un plus, un ajout.
Ok, merci de me donner la parole. Comme le professeur vient de le dire, l'océanographie, les études océanographiques ne nécessitent pas forcément de résider le long de la côte, puisque bon, on n'ira pas tout le temps dans l'eau pour pouvoir échantillonner. Bien avant d'aller sur la mer, il faut d'abord des études théoriques et comprendre les phénomènes dynamiques et physico-chimiques qui se déroule là-dedans, avant maintenant de prendre un moment pour pouvoir passer à travers les échantillonnements pour connaître vraiment ce qui se passe. Et c'est ce que nous faisons. En première année, nous avons des unités d'enseignement sur les visites du littoral et les administrations. Et en vacances, nous venons à Lomé pour passer nos stages, pour plus approfondir, toucher du doigt les études théoriques que nous avons reçues.
Merci. Merci beaucoup, mon cher ami. Il y a mon cher ami Godson qui veut... Ah, d'accord, il y a un professeur qui veut rajouter quelque chose.
Effectivement, et merci beaucoup. Alors, par rapport à la question, je voudrais peut-être aller un peu plus loin relativement à la gestion des espaces maritimes. Pour dire que, bon, comme vous le savez, tous les États côtiers, par rapport à la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, tous les États côtiers ont droit à un certain nombre de distances par rapport aux espaces maritimes. Notamment à la mer territoriale, à la zone contiguë et puis à la zone économique exclusive. Au-delà, même si vous n'êtes pas côtier, vous avez droit. Au-delà, vous avez droit. Donc c'est pour dire que même si on est à l'intérieur du continent, on peut mener des recherches sur les espaces maritimes. C'est juste ça que je voulais ajouter pour appuyer mes collègues. Merci beaucoup.
Merci pour cet élément de complément que vous venez alors de faire. Il y a professeur Alpha Sika qui est revenu. Professeur, bon, rebonjour. Allô? Allô, professeur? Décidément, la connexion fait toujours défaut. Alors, notre confrère Godson Pitomagnan, qui a une question.
Oui, Godson. Merci. Bonjour. Je n'ai pas besoin de connexion pour me faire entendre. Par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure, professeur, à Jossi, question à laquelle le coordonnateur a essayé d'apporter une réponse, comme quoi c'est par le truchement du gouvernement que Waka opère. Dans les universités, il n'y a pas que le département de la géographie. Donc, d'autres départements aussi prospèrent dans la recherche. Doit-on comprendre que les autres départements aussi bénéficient du soutien, ou alors ils ont un budget consacré à la recherche? C'est pour insister sur la question, comme quoi moi personnellement j'estime que il n'y a pas de budget pour la recherche. N'eût été la présence de Waka, que deviendrait le département de géographie? Donc, la question est retournée encore au professeur Adjossi.
D'accord, professeur Adjossi. Professeur Adjossi, avant de répondre, il y a un auditeur qui est signalé en ligne. Allô?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, comment vous allez? Allez-y. Allô? Il est parti. D'accord. Alors, professeur Adjossi.
Oui. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous l'avez si bien dit. Il n'y a pas de budget pour les autres laboratoires. Je crois que si le projet Waka a financé notre équipe de recherche, c'est par rapport à nos axes de recherche. Nous travaillons sur le domaine littoral. À l'Université de CARA, il travaille également en océanographie. Le projet Waka intervient sur les littorales. Donc, c'est par rapport à nos axes de recherche que le projet Waka a pu nous appuyer. Les autres laboratoires ne sont pas dans ces axes de recherche-là. Donc, c'est pourquoi le projet Waka ne les a pas appuyés.
ça ne veut pas dire que ces laboratoires ont un financement particulier. Nous sommes dans le même régime. Aucun laboratoire, aucun institut de recherche n'a un financement. C'est vrai, ce que le projet WACA a mis à notre disposition, c'est l'État togolais qui nous a donné cet argent-là pour pouvoir acquérir les équipements. Mais au niveau de l'université même, dire qu'un laboratoire bénéficie d'un financement annuel en tant que tel, ça n'existe pas.
Alors, professeur Adoussi, si nous posons cette question, je pense que c'est parce que les populations attendent plus alors des universités en matière de recherche. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez parlé, quand vous parlez alors des défis, ou le professeur même Alpha et Sika parlait des défis, il y a également la question de financement. Si déjà une université qui n'a pas de financement pour les recherches, est-ce que c'est encore une université?
Bon, mais c'est vrai que c'est pertinent ce que vous posez comme question. Et il est aussi vrai que la réponse, normalement, ce n'est pas à nous, ici présents, de donner des éléments de réponse beaucoup plus précis. Mais ce que nous allons peut-être dire par rapport à cette préoccupation, c'est qu'à l'université, bien que le financement n'est pas forcément destiné à la recherche en tant que telle, mais l'université s'efforce, je dis bien l'université s'efforce, de financer d'une manière ou d'une autre la recherche à travers ce que l'université collecte comme entrée, comme ressource liée aux inscriptions des étudiants. C'est là où, quand on considère les masters, par exemple, aujourd'hui créés à l'université de Lomé, où ce qui se faisait, c'est sur ces inscriptions qu'on essaye de voir par rapport aux laboratoires qui sont à l'université, ce qui peut être retourné à ces laboratoires en fonction du nombre d'étudiants inscrits. Donc ça permet de financer un peu la recherche quelque part.
On nous annonce, on nous signale déjà que notre temps est presque parti. Professeur Adoussi, vous allez nous donner votre mot de la fin, mais j'aimerais poser une petite question concernant surtout ce mot de la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que ces acquis soient pérennisés au niveau des étudiants? Est-ce qu'il y a peut-être une question? Qu'est-ce que vous faites?
Ok, merci beaucoup. Donc, pour pérenniser les équipements, il y a les étudiants qui sont externes au département de géographie qui contribuent pour pouvoir accéder aux équipements. Nous avons aussi pour ambition de pouvoir faire des prestations de services. Donc cet argent permettra de pouvoir maintenir les équipements.
D'accord.
Maintenant, pour le financement, je crois que tous les laboratoires postulent à des projets de recherche. Donc ce sont ces projets-là qui financent, c'est vrai. Il n'y a pas de financement en tant que tel, mais on a ce financement des projets pour pouvoir mener la recherche. Donc, l'université existe bel et bien. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, professeur. Nous allons maintenant donner la parole au coordonnateur pour son mot de la fin, pour clôturer l'émission. Alors, coordonnateur, votre mot de la fin.
Bon, je voulais d'abord remercier tout le monde, remercier l'ensemble des participants ici, que ce soit ceux qui sont présents ici que ceux de CARA. Remercier d'abord le gouvernement pour l'initiative du projet et les partenaires qui l'ont accompagné, notamment la Banque mondiale, aujourd'hui l'AFD et Invest International. Vous savez que sans cette volonté du gouvernement, le projet WACA n'existerait pas. Merci beaucoup et je vous remercie.
Merci beaucoup, coordonnateur, pour cette intervention. Chers amis, merci à vous aussi qui avez participé à cette émission depuis le siège alors de WACA. Merci à vous qui nous avez suivis. Michel Tomega, Jérôme Akuta était ici avec moi. Thomas était d'Atevi, était depuis la radio, Canal FM, au siège même d'ailleurs de la radio. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve pour un prochain numéro de l'émission. Mission WACA, au revoir.